Alors, je suis en direct de chez Madame Anastasia. Madame Anastasia, c'est une dame qui a 81 ou 2 ans. Et on est chez elle, on est en train de goûter, dîner. Il y a du chou, il y a des poivrons, il y a de la vodka, il y a du poisson, il y a du lard blanc, il y a des gâteaux, il y a du sel, il y a tout ce qu'il faut. Il fait très très froid pour nous, il fait un vrai temps de russe, de neige et de glace. C'est tout à fait un temps comme on aurait Maros, on me dit. Et Madame Anastasia, elle rigole parce que j'ai dit Maros. Et elle a vraiment moins 4. Alors j'ai menti. Et on est toute une bande là. Et on est dans cette petite maison d'une partie de Volgograd qui est une immense ville de 80 km de long. L'ancienne Stalingrad. Hier, ça a été des célébrations, elles n'ont plus fini. Des fanfares et des discours et des parades. Un petit coup de revival, de pitch stalinien. Sur quand même une histoire extraordinaire qui a été celle de cette bataille et de cette victoire, et de cet épisode où l'histoire a basculé. C'est une façon de se souvenir que la façon dont nous nous souvenons, la façon dont on nous raconte cette Deuxième Guerre mondiale, eh bien, est très largement hémiplégique. Aujourd'hui, on a rencontré Galina, 62084, c'est le numéro de son tatouage. Et non, elle n'est pas juive, elle est russe, elle est tout à fait russe, et toute gamine, elle a été déportée. Elle a été déportée en Pologne, elle a été déportée à Auschwitz, où elle a été tatouée, elle et ses frères et sœurs, dont un bébé, comme il avait le bras trop petit pour qu'on puisse poser un tatouage, eh bien, on a posé ce tatouage sur sa cuisse. Et c'était des Russes qui, ainsi, ont été déportés. Elle nous a raconté cette histoire douloureuse que nous ignorons. Des choses que nous ignorons, c'est-à-dire l'histoire russe, une histoire hémiplégique. On a l'impression, vu d'ici, qu'on nous a pas tout raconté et que notre conscience historique est un peu hémiplégique. Voilà, on continue notre découverte et cette balade dans la mémoire terrible et épique de cette partie de la Russie. Mais aujourd'hui, on est un peu dans la même ambiance dans la basse Vichy, puisqu'on va retrouver le maréchal Pétain. Oui, les voyages du maréchal Pétain sont des documents qu'on avait retrouvés et qu'on a remis en forme et remis en onde selon nos bonnes vieilles recettes. C'est jusqu'à 18h et c'est la basse Vichy.
Allô, le maréchal Pétain va parler. Allô, le maréchal va parler. Silence.
Vive la France! Dieu Christ est nom! J'en est un seul! Car Pétain, c'est la France! Et la France aujourd'hui, c'est Pétain!
Vous comprenez bien le sens et la grandeur du nom de chef. Le chef, c'est celui qui sait à la fois se faire obéir et se faire aimer.
La France est un grand pays que l'infortune ne saurait abattre. Ensemble, et d'un même cœur, prions notre amour de la patrie. Vive la France!
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Dis à trois valets de venir, on en a chien avec mon câble.
Venez. Dépêche-toi. Dépêchez-vous.
Se rapprocher pour ainsi dire toutes ces manifestations qu'on aurait pu faire dans l'intérêt général, dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt du monde. Et voilà à quoi ça aboutit. Il y a vraiment des sauvages. Ben, ce ne sont pas toujours des nègres qui sont les plus sauvages.
Non.
Tel qu'en lui-même, enfin, Pétain. Depuis 55 ans, jamais ces documents sonores n'ont été diffusés. Pétain, le maréchal Pétain, monsieur le maréchal Pétain, a enregistré ces mots, ces phrases pour la radio de Vichy. Aujourd'hui, Pétain avant montage, Pétain avant démontage. Ces documents que vous allez entendre aujourd'hui, dans la base où j'y suis, proviennent de la BDIC, la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine. Ces documents furent retrouvés au fond d'une armoire avec des centaines d'autres disques, des 78 tours, qui étaient des enregistrements, des voyages et des audiences accordées par Monsieur le Maréchal Pétain entre 1940 et 1944. Ces documents devaient servir au procès du maréchal Pétain. Seules les émissions de radio montées ont été diffusées par Vichy. La propagande de Vichy en matière de TSF, de cinéma, de presse a été très efficace. Là, ce dont nous disposons, grâce à l'INA, grâce à notre amie Jeannine Peset, ce sont des bandes brutes avant montage. Il y en a des dizaines et des dizaines d'heures. Nous avons choisi de vous en faire partager quelques moments avec un invité peut-être très inattendu pour vous dans la place où j'y suis. C'est Gérard Miller qui a écrit il y a pas mal d'années déjà un remarquable bouquin sur Pétain qui s'appelle « Les pouces au jouir du maréchal Pétain ». Peur de l'oubli, peur de l'abîme, 40-44, nous sommes toujours hantés par ces années noires et brûlantes. On s'en fout comme de l'an 40, eh ben non. On a beau se répéter cette petite phrase depuis si longtemps, ça ne passe pas depuis plus de 50 ans. On essaye d'avaler, de mâcher, de mastiquer cette grosse bouchée noire. Ça passe pas, il en reste toujours au bord de l'assiette. Alors que, selon les historiens, Vichy a livré tout ce qu'il pouvait être possible d'en savoir, mais nous préférons à la mise à plat, la mise en pli. Pour savoir qui nous sommes, il faudrait faire l'histoire de notre regard, toutes ces années durant, sur notre histoire, sur notre mémoire, si toutefois cela est possible. L'histoire de ce regard. Occulté, dénoncé, exorcisé, dissimulé pour des raisons d'État, des raisons et des raisons, du refoulé à l'exhibé. Nous vivons depuis longtemps dans ce pays avec l'impression secrète, inconsciente sans doute, qu'on voulait nous voler quelque chose de notre histoire, qu'on voulait nous voler quelque chose de notre mémoire. Pourtant, mille fois on nous a raconté ce que fut cette fracture historique, ce séisme de l'an 40, cette débâcle, cet effondrement d'une civilisation, cet apocalypse imprévu. Après tout, nous disposions de l'armée la plus forte en Europe. Tout ça, nous le savons. Nous savons aussi comment Philippe Pétain est apparu dans cette faille, dans cet effondrement, dans ce traumatisme comme l'homme providentiel.
Présenté.
Halt. Monsieur le maréchal de France.
«
maréchal Pétain a entrepris de faire une série de voyages à travers le pays de France. Entendez-moi bien. Il ne s'agit pas de continuer la morne, l'inutile tradition des voyages très officiels de chefs d'État tels que nous les avons connus. Le maréchal entend mener une enquête personnelle dans les villes, dans les villages, au besoin jusque dans le plus reculé des hameaux. Il veut connaître les besoins de son pays, il veut en savoir les ressources, il veut connaître les hommes, connaître leur visage, entendre leur voix. Il veut entendre aussi leurs plaintes, soutenir leurs initiatives, il veut justifier leurs espoirs. Donc, le maréchal voyage et travaille. Il enquête. Nous l'avons vu à Toulouse. Nous l'avons vu à Montauban, dans la campagne d'alentour. Nous l'avons vu chez les gens de la terre, chez les paysans. Nous l'avons vu chez les poètes. Nous l'avons vu chez les animateurs des œuvres de charité. Et puis, il fut à Lyon pour voir les ouvriers et pour prendre contact avec la Légion des combattants. Nous avons eu le privilège de suivre ce voyage étape par étape. Nous avons pris place dans le train du maréchal un beau soir à Vichy et nous ne l'avons quitté pour tout. À votre intention, nous avons pu enregistrer quelques documents sonores qui illustrent mieux qu'aucune littérature la manière du chef au travail. Vous allez le voir au milieu de la foule. Vous allez l'entendre interroger. Vous allez l'entendre conseiller. Reprenons ce voyage ensemble dans le train du chef de l'État, quelques 20 kilomètres avant d'arriver à Lyon. Depuis le réveil, le premier jour dans la campagne française qui était toute baignée de soleil, le salut des petites gares au passage du train du maréchal, les fenêtres fleuries de drapeaux et de sourires, l'hommage des gens de la campagne, le salut de la garde barrière à son poste, présentant son drapeau comme une arme. Tout cela que le maréchal a vu et a aimé. Et puis, c'est le premier contact avec la foule lyonnaise, devant la place de la préfecture. Les échos chantent encore dans mon souvenir, ils y chanteront longtemps.
Jean Masson, ineffable présentateur de la radio de Vichy, rappelle des gens comme Jean Nohain et Léon Zitrone pour présenter l'un des premiers grands voyages du maréchal, de Monsieur le Maréchal Pétain à travers la France. Là, c'est en novembre 1940, du 17 au 19 novembre 1940, qu'il promène sa personne à travers, sa personne dont il vient de faire don à la patrie à travers le pays. Et il est accueilli à la cathédrale de Lyon par le cardinal Gerlier qui l'accueille. Il faut rappeler que le maréchal Pétain était un antisémite convaincu, un anti-Dreyfusard qui n'avait jamais eu le moindre doute sur ses convictions, et voilà comment il fut accueilli dans cette cathédrale donc de Lyon. On peut rappeler évidemment qu'en 1905, la séparation de l'Église et de l'État avait laissé une grande partie de l'Église sur sa faim, et que l'esprit de revanche n'avait pas cessé de germer dans certains esprits, et évidemment la faillite de 1940 permettait enfin le triomphe.
Il est 9h, le maréchal va arriver. La première halte de la journée est pour cette maison de Dieu, une des plus belles qu'a voulu la France. Mêlons-nous une seconde à la foule qui attend sur le parvis, à cette foule qui n'a pu trouver place à l'intérieur, mais qui aura pourtant, comme vous allez la voir, un écho direct de la cérémonie par la vertu de gigantesques haut-parleurs qui ont été accrochés en haut du portail.
Sous le porche, le cardinal, entouré de tout son clergé, le cardinal vêtu de la cappa magna, accueille le maréchal de France. L'immense vaisseau est comme hérissé de foule. Il ne reste plus qu'un mince couloir bordé de soldats par où, lentement, le cortège s'achemine vers le cœur. Noble maison de Dieu, comme le cœur est resplendissant, avec les taches blanches des robes d'enfants, avec la tache rouge de la carte cardinaliste, avec les violets brillants des évêques, avec des gestes dolents, des mains de fer ont glissé la cape des épaules du cardinal. Il gravit lentement les marches de la chaire, de cette chaire du haut de laquelle tant de voix illustres se sont fait entendre. Pierre Marie, cardinal Gerlier, archevêque de Lyon et de Vienne, primat des Gaules, fait au-dessus de nos têtes le signe de la croix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le Maréchal, cette antique primatiale où j'ai l'honneur émouvant de vous accueillir enferme dans sa longue histoire bien des souvenirs glorieux.
Tout ce qu'elle a vu, la vieille cathédrale, le cardinal l'évoque maintenant. Et c'est un défilé de grands souvenirs qui arrive à nous du fond de leur passé. Des papes et des rois qui sont venus prier sous ses voûtes. Deux conciles s'y tinrent, le grand concile de 1254, sous le pape Grégoire X, qui réunit 500 évêques, 2000 prélats et les rois de France.
Saint-Louis y passa, Henri IV y fut marié, Pie VII y a béni les drapeaux de la garde nationale. Votre présence ici, monsieur le maréchal, demeurera elle aussi dans la mémoire de la postérité, car elle constitue, en une heure historique, un geste singulièrement émouvant. La France, endeuillée et meurtrie, avait besoin d'un chef qui lui montra la voie du redressement et lui rendit confiance en son destin. Dieu a permis que vous fussiez là, auréolé d'une gloire dont l'éclat pouvait suffire à de moins nobles, animé d'un dévouement patriotique qui vous a rendu plus grand encore à tous nos yeux. Aux instants les plus dramatiques de notre épreuve, vous vous êtes, en termes inoubliables, donné à la France, et la France, remuée jusqu'en ses profondeurs, vous a répondu en se donnant à vous celui qui, une seconde fois, vient sauver la patrie. Hier, pendant que défilait là-bas, place Bellecour, sous nos yeux embués de larmes, ses troupes superbes et ses drapeaux, dont le malheur, loin d'abolir la gloire, nous les a rendus plus sacrés. Avez-vous remarqué, monsieur le maréchal, que les appels vibrants de la foule, d'abord multiples, se sont fondus bientôt en deux seuls cris. Vive Pétain, vive la France, Dieu crie, mais non, c'en est un seul, car Pétain, c'est la France, et la France aujourd'hui, c'est Pétain. Pour relever la patrie blessée, toute la France, monsieur le maréchal, est derrière vous. Amen.
Lyon, ville mystique, le voyage du maréchal fut comme à Toulouse, un triomphe, la canonisation. Saint-Pétain, non, c'était plutôt l'entrée à Jérusalem. Ainsi s'exprimait le cousin du romancier Martin Dugard, Maurice Martin Dugard, dans sa chronique de Vichy à l'occasion de ce voyage, de cette tournée du maréchal Pétain en France en 1940. Tournée triomphale, comme on peut s'en persuader. L'un des thèmes qu'on entend déjà dans les mots du cardinal Gerlier en 1940, c'est la faute des Français. Si le malheur est si grand, c'est que la faute a été très grave et très profonde. En quoi consiste cette faute? Eh bien, dans le plaisir. Oui, les Français, des années 30, se sont vautrés dans la facilité, dans le plaisir. On essaye, bien évidemment, à travers ça, d'attaquer le Front populaire, d'attaquer les congés payés. Et déjà, le mot laxisme est employé dans le langage de Vichy. Voilà sur le thème du plaisir et sur le thème de cette faute collective, ce que monsieur le maréchal Pétain déclarait.
C'est à vous, jeunes Français, que je m'adresse aujourd'hui. Vous qui représentez l'avenir de la France et à qui j'ai voué une affection et une sollicitude particulières. Vous souffrez dans le présent. Vous êtes inquiets pour l'avenir. Le présent est sombre, en effet. Mais l'avenir sera clair si vous savez vous montrer digne de votre destin. Vous payez des fautes qui ne sont pas les vôtres. C'est une dure loi qu'il faut comprendre et accepter, au lieu de la subir ou de se révolter contre elle. Alors, l'épreuve devient bienfaisante. Elle trempe les âmes et les corps et prépare les lendemains réparateurs. L'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés a détendu leurs énergies, amolli leur courage et les a conduits par les chemins fleuris du plaisir à la pire catastrophe de notre histoire. Pour vous, engagés dès le jeune âge dans des sentiers abrupts, vous apprendrez à préférer au plaisir facile les joies des difficultés surmontées. Méditez ces maximes. Le plaisir abaisse, la joie élève. Le plaisir affaiblit, la joie rend fort. Cultivez en vous le sens et l'amour de l'effort. C'est une part essentielle de la dignité de l'homme et de son efficacité. Mes chers amis, il y a une concordance symbolique entre la dure saison qui nous inflige ses privations et ses souffrances et la douloureuse période que traverse notre pays. Mais au plus fort de l'hiver, nous gardons intact notre foi dans le retour du printemps. Oui, jeunes Français, la France, aujourd'hui dépouillée, un jour prochain reverdira, refleurira. Puisse le printemps de votre jeunesse s'épanouir bientôt dans le printemps de la France ressuscitée. J'ai articulé,
dit le maréchal Pétain dans cet enregistrement qui, encore une fois, n'a jamais été diffusé, jamais été utilisé sur une quelconque radio. C'était pas la version, c'était pas cette version-là qui était utilisée, si toutefois elle l'était. En 1941, le buste du maréchal Pétain remplace celui de Marianne dans les mairies au début de 1941. En 15 jours, des portraits qui ont été imprimés du maréchal Pétain, en 15 jours, sont vendus à plus d'1,5 million exemplaires dans ce pays où la circulation, évidemment, des marchandises et des objets est beaucoup moins rapide qu'aujourd'hui. Un service artistique est placé sous la tutelle directe du maréchal, et puis on imprime ces fameuses images d'Épinal, qui ne sont pas d'ailleurs imprimées à Épinal, mais à Grenoble, et qui vont représenter vraiment, alors l'image, une sorte de catéchisme comme ça du maréchal Pétain, que les Français, que nos parents, grands-parents vont aimer. À 90%, dira-t-on, les Français approuvent cet homme providentiel. Gérard Miller, un invité un peu inattendu sans doute dans la base si j'y suis, n'est pas seulement le compère des joyeux chansonniers et des vedettes expertes en gaudriole. Il a écrit en 1975 un essai qui s'appelle « Le pouce au jouir du maréchal Pétain », qui est un ouvrage remarquable qui a été salué à l'époque par Roland Barthes comme une contribution à éclairer ce que Barthes appelait le cauchemar sinistre et glacé que furent ces quatre années sous la houlette de Vichy. Il faut entendre le document qui va suivre très attentivement. Il date de janvier 1944, exactement le 22 janvier 1944, à Vichy, à l'hôtel du Parc. Le maréchal reçoit des maires de la région parisienne qui lui sont présentés notamment par Laval, ancien chef du gouvernement et ancien maire socialiste d'Aubervilliers. Parmi les maires, il y a le maire de Drancy. Qui dit Drancy, dit évidemment camp de Drancy. Ce camp de Drancy a été ouvert le 20 août 1941. Il faut rappeler que 77 000 juifs ont séjourné dans ce camp avant d'être déportés vers les camps de la mort avec le concours de la police française et de la gendarmerie française. À partir de juin 1942, trois convois partiront chaque semaine et nul ne peut ignorer l'existence de ce camp quand on est en 1944, surtout pas les habitants de Drancy, surtout pas évidemment le chef de l'État. Le 1er janvier 1944, il y a environ 50 000 juifs qui ont déjà été conduits vers les camps de la mort et qui ont transité par le camp de Drancy. Deux jours avant le court entretien que vous allez entendre, le 20 janvier 1944, part de Drancy le convoi numéro 66 avec 1155 personnes, 864 sont gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Le 3 février 1944, quelques jours après la rencontre que vous allez entendre, le convoi 67 part pour Auschwitz avec 1214 personnes, 985 sont gazés à leur arrivée, 26 sont survivants, dont 12 femmes. Ces précisions nous ont été apportées par notre ami Maurice Rachfuss. Pétain, évidemment, ne pouvait pas ne pas savoir. Il avait 88 ans, il était gâteux, mais on sait qu'il savait. On sait quelle fut cette profonde et satisfaite et vaste bêtise, pour reprendre les termes même de Gérard Miller, mais même s'il ignorait, ce qui est impensable, même si son gâtisme pouvait laisser entendre qu'il ignorait, il y avait autour de lui, derrière lui et avec lui, la France. Le pétainisme n'était pas un corps étranger, n'est pas un corps étranger à notre histoire.
Je peux viser un maire de Drancy.
Maire de Drancy, population essentiellement ouvrière.
De combien maintenant?
Nous comptons comme 43 000 habitants.
Eh bien, monsieur le maréchal, en 1904 ou 2, il y avait 1800 habitants.
Monsieur le président Laval, on connaît bien.
C'est une ville, c'est le prototype de la ville qui s'est le plus rapidement développée et agrandie.
Oui. Il y a eu entre 2 et 6 rives 20 000 habitants de plus.
Entre 2 et 5 000.
Seulement le gros malheur de ma commune, c'est que.
Actuellement, Drancy n'a pas bonne presse. Non pas à cause de ses habitants. Et vous devinez ce que je veux dire, il y a une prison.
Hélas. Hein? Hélas.
harcelé.
Mais je suis harcelé.
Ils ne sont pas de Drancy, monsieur le maréchal.
Oui, ah oui mais je suis harcelé malheureusement de demander. Je suis harcelé malheureusement de demander la tenue de cette prison, n'est-ce pas, de nouvelles des
harcelés.
Et nous avons très peu de possibilités de donner satisfaction.
Est-ce qu'on peut leur apporter quelques consolations? On ne peut pas communiquer avec eux.
Par hasard, je peux avoir quelques renseignements sur la santé. C'est tout. C'est tout.
Mais ça doit vous gêner, tout ça.
Oh, énormément.
Ça vous faut des visites.
Énormément. Ça nous interdit des visites et des demandes fréquentes.
Voilà, Gérard Miller, c'était le 22 janvier 1944, donc le maréchal Pétain, monsieur le maréchal Pétain, comme il était convenu de l'appeler, recevait lors d'une audience donc à Vichy, les maires de la région parisienne, dont le maire de Drancy qui parle d'une prison. Alors pourquoi on a commencé par cet extrait-là? Parce qu'il se trouve que lors d'un reportage que j'ai fait dans le camp, l'ex-camp de Drancy, on m'a donné, on m'a fait cadeau d'un livre qui s'appelle « Le pouce au jouir du maréchal Pétain » qui est signé de Gérard Miller. Et par erreur, le conservateur m'a donné ce livre que vous lui aviez dédicacé en hommage amical le 1er juin 1993, où vous dites au conservatoire historique du camp de Drancy pour son rôle et sa mission indispensable, même pour le pessimiste que je suis. Donc il y a un rapprochement entre ce livre et puis ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'on apprend là qu'il y avait à cette époque-là une prison dans laquelle on ne pouvait pas aller, et il y avait dans cette prison, entre guillemets, des gens pour lesquels on ne pouvait rien.
Oui, c'était un camp. C'était un camp, il y a aujourd'hui un musée du souvenir, un lieu où on peut tout à fait se rendre pour se souvenir que les camps de concentration, il y en avait aussi en France. Et quand on voit Pétain se déplacer dans cette région, on se rend compte que cet homme et ceux qui l'entouraient vivaient dans un autre monde en ce qui concernait toute une série de souffrances. C'est-à-dire qu'on sait à peine de quoi il parle. On a l'impression qu'il y a un certain nombre d'ombres derrière des murs, derrière des grilles, avec des visites impossibles. Enfin, c'était un camp, c'était des gens concentrés, c'était des gens qui, pour un grand nombre, sont partis vers la mort. Et on voit effectivement celui qui est supposé gouverner la France se promener là comme au milieu d'ombres, enfin, qu'il ne connaît pas.
Censure par l'insignifiance, c'est une des stratégies de ce genre d'esprit. Le mot esprit revient très souvent dans le langage du maréchal Pétain. Voilà un exemple, lors d'une audience, de ces audiences, donc ces fameux jeudis de Vichy, cette fois au printemps de 1944, alors les choses ont changé évidemment, le maréchal reçoit des maires de la région des Pyrénées, et là il reçoit notamment le maire de Tarbes qui lui est présenté par le préfet. Et on va voir comment, pour le maréchal, c'est l'occasion de parler de la mort du petit cheval.
J'ai pas eu l'honneur de vous recevoir quand vous êtes venu dans notre ville. J'étais prisonnier à ce moment-là.
Ah oui.
Mais je vous donne l'assurance, monsieur le maréchal, que si vous revenez chez nous, vous auriez le même accueil.
Bon,
c'est de vénération et d'enthousiasme.
Très bien. Je suis allé plusieurs fois à Tarbes. Je m'intéresse beaucoup aux chevaux.
Oui, mais il n'y en a plus.
Il n'y en a plus?
Il n'y en a plus, ils ont disparu.
Oui. Ben, j'en ai vu
nous
beaucoup.
Nous aurions voulu vous faire l'hommage de Nangloara, monsieur le maréchal.
Hein?
Nous aurions voulu vous faire l'hommage de Nangloara, de Tarbes.
Vous me dites ça, maintenant.
Mais il n'y en a plus.
Bah oui.
De sorte qu'il ne nous a pas été possible.
Oui.
Alors,
parce que mon dernier cheval, quel est-il? C'est un Tarbes, celui qui est là.
Oui. Ils ont disparu.
C'était un très beau cheval. C'est mon dernier cheval. Je n'en ai plus eu depuis. Je ne suis pas monté à cheval depuis 2 ans.
Ça a changé le caractère de notre région.
Ben non, mais si j'avais eu un cheval venant de Tarbes, ben j'aurais continué à monter à cheval.
Ils sont en train de le permettre.
Non, parce que j'ai quitté Argrès, mon cheval.
Je le crois.
D'autant plus que c'était un excellent exercice.
Tout à fait agréable.
Ben vous lui direz bonjour en passant.
Bien, je vais le voir tout à l'heure, en effet.
Il est mort maintenant, vous ne risquez rien. Il ne pourra plus ruer.
Alors, il a réponse à tout, dans toutes les audiences qu'il accorde, et sa réponse est toujours « moi je ».
Alors ça, c'est sans doute ce qui explique le plus ce qu'était le pétainisme. Il faut comprendre qu'il y a une défaite invraisemblable pour l'opinion française, imprévisible. Et aujourd'hui, évidemment, ça nous semble évident que la France a été envahie par les Allemands. À l'époque, la France ne pouvait pas être envahie. La ligne Maginot nous protégeait. Et tout d'un coup, effectivement, l'opinion se trouve confrontée à une situation absolument incompréhensible. Et un homme, un seul, se dresse et dit, tout au début, en 40, à peine les Allemands dans notre pays, dit « je vais vous expliquer ce qui s'est passé ». Ce sont les premiers mots du premier discours de Pétain, « je vais vous expliquer ce qui s'est passé ». Et il va rester tout au long de cette période, un petit peu moins sans doute vers les années 43-44, mais il va rester tout au long de cette période le sujet supposé savoir. Il ne donnera bien sûr jamais aucune explication, par exemple sur la défaite, puisqu'il en est un des artisans. Il faut pas oublier que Pétain était un des militaires responsables de la défaite française, mais tout au long de cette période d'occupation, il va être celui qui peut tout expliquer. Et le terme de sujet supposé savoir, c'est un terme du psychanalyste Lacan, où le point important, c'est supposer. Peu importe qu'il sache réellement, peu importe qu'il explique réellement, ce qui est décisif, c'est qu'il se mette, et comme vous le dites, dans toutes les circonstances, dans la position de celui qui a réponse effectivement à tout.
Avez-vous lu mes messages ?
Oh oui, monsieur Maréchal, certainement.
Oui. On les a quelquefois un peu critiqués.
J'ai lu et médité.
On le sait quelquefois un peu critiqué, mais ils resteront. Ils resteront.
Ils resteront certainement, M. Maréchal.
Eh bien, savez-vous comment j'ai eu toutes ces idées? Parce que je suis, on me demande quelquefois, mais vous êtes socialiste? Moi, socialiste, jamais de la vie. Je suis social, ce qui n'est pas du tout la même chose. N'est-ce pas?
Oui, mon avis. Certainement.
Parce que le social s'adresse à tout. Quand on est humain, on est social. Mais le socialisme, ça, c'est un système. Je ne connais pas de système. Je suis bon pour tout le monde, je cherche à rendre des services partout où j'en ai l'occasion, mais je n'ai pas de système spécial pour rendre ces services. Par conséquent, je suis social, je ne suis pas socialiste.
C'est le moyen de la faculté.
Vous n'en voulez pas de vous dire ça.
Pas du tout, c'est Maréchal.
Vous me comprenez?
Je vous comprends, c'est Maréchal.
Une précision quand même indispensable et précieuse, qui a une valeur évidemment historique. On hésite toujours entre l'éclat de rire et la consternation. On se demande si on est en présence une sorte d'Ubu du XXe siècle ou une sorte d'Amin Dada qui était ce maréchal, sauf si évidemment on pense à ce qui était quand même une parenthèse absolument sinistre. Les parenthèses, c'est un abus d'optimisme. On a bien l'impression que cette histoire est très très loin d'être terminée. Donc des documents, je vous le rappelle si vous arrivez, jamais diffusés, pratiquement jamais diffusés. Certains éléments que vous entendez ont déjà été diffusés, proviennent de disques d'enregistrement connus, mais pour la plupart, ils n'ont jamais été diffusés à la TSF. On retrouve Gérard Miller.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. C'est moi seul que l'histoire jugera.
Roland Barthes, dans la préface à votre bouquin, à votre Pétain, parle d'un cauchemar sinistre et glacé. Là, parlant de Pétain, est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Ou bien est-ce que c'est vraiment une époque révolue? Est-ce que toute ressemblance avec des dictateurs existants ou tentant à exister ou vouloir exister est fortuite ou...
Écoutez, ça n'est certainement pas fortuite. La France a été majoritairement pétainiste en 1940. Jacques Duclos... responsable communiste disait que si on avait fait un référendum en 40, 90% des gens auraient voté Pétain.
Et en 44?
Alors, ça n'est certainement pas le cas en 44. En 44, il y a eu bien de l'eau sous les ponts. Il y a eu notamment le STO, le travail obligatoire, qui a précipité dans le maquis beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas partir. Il y a eu effectivement les souffrances de l'occupation. Il y a eu la prise de conscience idéologique d'une partie d'opinion. Donc, en 44, certainement pas 90%. Mais c'est pour dire que Pétain a imposé un fascisme à la française. un fascisme couleur de France. Alors, je sais bien que le mot fascisme, à propos de Pétain, il gêne, parce qu'on se dit, voilà, ça oui. n'est pas exact. Alors, très bien, est-ce qu'on veut parler de bonapartisme? Moi, je me fous des termes. Je considère que c'est une dictature à la française, qui a correspondu à notre époque, et c'est parfaitement vrai qu'il y a un style français du côté de la réaction, du côté de l'antiparlementarisme, du côté de l'antirépublicanisme, et c'est tout à fait d'actualité. Pétain n'est pas mort. Et aujourd'hui, sous d'autres formes, avec d'autres discours, on s'aperçoit de la persistance d'un certain nombre d'idées réactionnaires que Pétain a tout naturellement trouvées lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Je crois que c'est toujours important de comprendre que le pétainisme n'a pas été importé dans les fourgons allemands.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est tout naturellement. Vous avez dit, c'est tout naturellement que. Et alors, effectivement, cette voix de Pétain est toute naturelle. C'est toujours le bon sens. Quand il dit moi je avec mon expérience à la campagne, mon cheval, mon machin. C'est le vieux grand-père qui dit des choses évidentes. Il est catholique. Bon, la France est catholique. Il aime le paysan. Il aime la terre. Il en fait l'éloge. Il est partisan de l'ordre, qui ne l'est pas. Il est l'ennemi du Front Populaire, mais ça, à l'époque, le Front Populaire, c'est complètement discrédité. Vous indiquez comment Blum fait l'éloge de Pétain à un moment.
Ce qui est terrible, c'est que presque tout le monde, à un moment ou à un autre, a fait l'éloge de Pétain, notamment parce que il est supposé être l'artisan de la victoire de 14-18. On ne se rend plus compte de ce que ça représente aujourd'hui. Mais la popularité de Pétain dans les années 30 est considérable, y compris, évidemment, dans les rangs de la gauche. C'est la chambre du Front Populaire qui va porter finalement Pétain au pouvoir. Et donc c'est tout à fait exact de dire que Pétain s'est essentiellement appuyé sur des idées qui étaient supposées les idées du consensus sur le bon sens. Il est assez peu idéologique par rapport à d'autres dictateurs comme Hitler ou Mussolini. Il ramasse en se baissant un certain nombre d'idées qui traînent dans les rues, qui courent dans les champs et qui sont les idées que tout le monde peut se partager. Ce qui fait par exemple que la figure qu'il adopte, c'est celle du père de famille, il a saisi la posture de la seule autorité encore en place, donc d'une certaine façon d'une autorité incontestable pratiquement pour tout le monde.
Il est aussi le Christ, parce que c'est ce que vous dites, il est le Christ, il fait don de sa personne à la France, donc
ça,
il s'offre.
Ça c'est formidable, c'est un dictateur, il prend le pouvoir et il nous explique, il explique aux gens de l'époque, puisque je n'étais pas né, il explique que c'est par sacrifice qu'il accepte de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que cet homme, s'identifiant certainement au Christ, puisque la grande phrase clé de son règne, c'est « je fais don à la France de ma personne », enfin bon, c'est cette personne qui va encombrer, occuper la France pendant pas mal d'années, et même après sa mort, puisque s'en souvient peut-être plus, mais des années après la mort de Pétain, la question de savoir où il serait enterré était encore d'actualité. On a volé un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, on a volé un jour le cercueil de Pétain, des gens d'extrême droite, qui souhaitaient que Pétain soit enterré au milieu des soldats qu'il avait conduits pendant la Grande Guerre, et non pas où est-ce qu'il est actuellement. Et donc ce corps n'a pas cessé d'encombrer, vivant ou mort, la France, et c'est vrai qu'il se met dans la posture de nous dire « Regardez comme je me sacrifie, faites la même chose ». Un des mots clés du pétainisme, c'est le sacrifice, éloge du sacrifice. On ne se sacrifie jamais assez, on ne souffre jamais assez. Peu de discours politiques au XXe siècle ont autant fait l'éloge de la souffrance.
Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Vingt siècles après l'éveil du sentiment national en Gaule, au lieu même où l'âme française connaît sa première gloire, sous le monument élevé en 1901 à la mémoire du chef Arverne Vercingétorix, le maréchal Pétain, président de la Légion, a scellé la crypte qui abritera, comme le plus précieux des trésors, la terre française, recueillie dans la métropole et dans les colonies, sur tous les lieux où souffle l'esprit de la France. Ainsi écrivait-on dans une revue qui s'appelait La Légion, qui était la revue de la Légion française des combattants, créée par Monsieur le Maréchal Pétain le 29 août 1940. Combien furent-ils à adhérer à cette légion, combien furent-ils à porter l'uniforme de la Légion des combattants pour la résurrection française, à marcher au pas et à vibrer de tout leur cœur et de tout leur corps lorsque le maréchal bien-aimé apparaissait. Cette Légion des combattants, par la suite, donnera la milice française, la police politique et paramilitaire instituée par Laval, dont on connaît le rôle très actif dans la collaboration. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est à Grenoble, les 19 et 20 mars 1941, où le maréchal Pétain est présent.
Ah, le voilà. Le voilà.
Vive Pétain ! Vive le Pétain ! Vive le Pétain ! Merci.
C'est l'hommage des 40 000 légionnaires de l'Isère que j'ai l'honneur et la joie de vous présenter aujourd'hui. Croyez que tous nous avions senti profondément, avant que vous nous le disiez, qu'en vous nous trouverions un père et un ami. Vos fils vous sont reconnaissants de la lumière que vous leur avez rendue au jour sombre de juin 1940, alors que tout s'écroulait autour d'eux. Et ils vous aiment, monsieur le maréchal, pour tout ce que vous avez dit et fait pour eux comme un père pour ses enfants. Je ne saurais mieux vous dire ce qu'un des nôtres vous a déjà exprimé. Vous ferez que je vous le répète. Nous vous aimons parce que vous avez chargé vos épaules du fardeau des difficultés, des douleurs et des sacrifices, et que vous, le vainqueur, vous avez pris sur vous tout le désastre à redresser. L'espérance nous a été rendue le jour où vous nous avez appelés, les premiers, pour être les bons ouvriers de la rénovation nationale. Vous pouvez nous faire confiance, monsieur le maréchal, et tout nous demander, jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Vous nous avez dit, suivez-moi, nous sommes prêts pour la France. Au serment solennel que nous allons avoir l'honneur de prêter devant vous, permettez-nous d'ajouter dans notre vieux Dauphiné celui de notre seigneur de Bayard, loyal serviteur s'il en fut, combattre tous les jours que Dieu a fait et avec son aide pour notre chef, notre patrie et notre serment. Légionnaires, mes camarades, pour le serment, garde à vous. Ouvrez le banc. Je jure de continuer à servir la France avec honneur dans la paix, comme je l'ai servi sous les armes. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille, au travail. Je m'engage à pratiquer l'amitié et l'entraide vis-à-vis de mes camarades des deux guerres, à rester fidèle à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. J'accepte librement la discipline de la Légion pour tout ce qui me sera commandé en vue de cet idéal.
Mes amis, je viens de prendre part à votre serment. En ce qui me concerne, je m'engage à servir la patrie tant que mes forces me le permettront.
C'était il y a 57 ans, en France, la voix du maréchal Pétain, hommage au maréchal Pétain, à travers des documents que nous avons retrouvés, qui n'ont jamais été diffusés. Évidemment, ça nous semble un monde lointain, incroyable, impossible, tout à fait désespérant. On sait qu'il y a eu, bien sûr, une résistance. Une résistance dans les maquis, une résistance à l'étranger, mais il y a aussi des formes de d'autres formes de résistance par l'existence. Existence, résistance, il y a un très beau mouvement en France qui s'appelle comme ça, existence, résistance. Pendant ce temps-là, l'esprit continuait, la pensée continuait, des gens continuaient de s'aimer, et il faut, est-ce que c'est possible, d'imaginer que quelqu'un comme Monsieur le Maréchal Pétain était le contemporain de Jacques Prévert. Voilà une version de par Marianne Oswald de quelque chose que vous connaissez et qui date exactement de la même époque.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Mais mon amour silencieux et fidèle sourit toujours et remercie la vie.
C'était Là-bas si j'y suis dans une nouvelle diffusion consacrée à Pétain, avec un remerciement à Janine Marquezet pour la documentation sonore. À la technique aujourd'hui, Olivier Liotor et Christophe Goudin, assistante Joël Levert, assistant Coy Nguyen, chef répondeur Christophe Imbert et à la réalisation Antoine Chao. Le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, le fax 01 56 40 41 07 et pour le courrier email daniel.mermet@radiofrance.com.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. C'est moi seul que l'histoire jugera.
À signaler aussi, alors que vient de se clôturer le 3e Forum social mondial de Porto Alegre, la parution récente du livre de Florence Aubenas et Michel Benassayag, Résister, c'est créer, aux éditions de La Découverte, un essai, une réflexion sur l'émergence des mouvements contestataires et altermondialistes.